Valérie Darmon. Elle est sur Europe 1 à 19h12, un peu plus près des étoiles dans le grand journal du soir. Marion Calais, vous recevez ce soir l'ancien astronaute Jean-François Clairvoy.
Bonsoir Jean-François Clairvoy.
Bonsoir.
Cette nuit, la capsule SpaceX doit entamer son retour sur Terre avec à son bord les Américains Bob Behnken et Doug Hurley qui viennent de passer 2 mois dans la Station Spatiale Internationale. Enfin, retour si tout se passe bien, hein, parce qu'il y a quand même une petite incertitude à cause d'un ouragan.
Oui, la météo est toujours un facteur de décision finale. D'ailleurs, lors de mes propres vols spatiaux, plusieurs fois, mon retour a été décalé de quelques orbites ou quelques jours. Là, ils ont 7 sites d'atterrissage prévus sur une très grande zone. Alors, au bord des côtes, à l'ouest de la Floride et à l'est de la Floride. Donc, avec un peu de chance, il y aura quand même quelques zones qui seront favorables. Et jusqu'au dernier moment avant la séparation, évidemment, SpaceX et la NASA se réservent le droit de reporter le retour.
Cette capsule, donc, théoriquement, elle doit amerrir demain pour boucler ce premier voyage initié par une compagnie privée. SpaceX aura alors fait entièrement ses preuves. Ce retour sur Terre, c'est une formalité comparée au décollage qu'on avait pu suivre en direct en mai dernier.
Ah non, le retour, c'est aussi critique que la montée. Ce n'est jamais une formalité, même avec un vaisseau comme le Soyouz, qui a plus de 50 ans d'existence. Récemment, le Soyouz a réalisé des rentrées en balistique d'urgence parce que des systèmes à bord étaient en panne. Donc, c'est toujours délicat parce qu'il faut rentrer avec le bon angle dans l'atmosphère, au bon endroit. La capsule, elle peut planer, c'est un très mauvais planeur, mais elle a quand même une finesse, comme on dit en aéronautique, de 0,3. Donc elle peut se décaler un peu à gauche ou à droite lors de sa trajectoire de rentrée pour être proche du site visé d'atterrissage. Mmh. Et bien sûr, jusqu'au dernier moment, le bouclier thermique doit bien marcher, l'orientation du vaisseau doit bien être pilotée. Et ce qu'il y a d'original, c'est que contrairement à tous les autres vaisseaux de type capsule, dont on extrait les astronautes dès leur toucher du sol, le Soyouz, ils arrivent sur Terre, on les extrait de leur capsule. Les capsules Gemini, Mercury et Apollo, elles amerrissaient. Et c'est alors qu'elles flottaient dans l'eau qu'on extrayait l'équipage. Là, l'équipage va rester dans la capsule jusqu'à ce que la capsule soit treuillée sur le pont d'un navire.
Ah,
donc
d'accord.
C'est assez original.
Ouais. Et justement, ce qui compte aussi après, une fois cet amerrissage, c'est que certains éléments de cette capsule SpaceX pourront être réutilisés pour de prochains vols. On a beaucoup parlé hein, de ce concept de fusée réutilisable. Finalement, là, on va savoir dans quelle mesure c'est concret ou pas.
Effectivement, ça c'est la grande nouvelle. C'est la première fois qu'un vaisseau de type capsule est censé être réutilisé. Le seul avant celui-là, c'est la navette spatiale américaine qui se posait sur une piste et qui a volé plusieurs dizaines de fois. Chacune des navettes a volé plusieurs dizaines de fois. Là, il s'agit d'une capsule dérivée de ce qu'on appelle la capsule Dragon, qui faisait que du cargo automatique et qui, elle, a été réutilisée plusieurs fois. Donc, il est probable que cette capsule, qui est légèrement différente, puisqu'elle abrite des humains, et elle est aussi équipée de moteurs d'éjection qui n'équipent pas les capsules qui servent uniquement au cargo. Donc, en principe, elle va être réutilisée. Et si tout se passe bien, jusqu'à présent, tout se passe bien, si tout se passe bien, le premier vol opérationnel avec un équipage de rechange de l'ISS aura lieu en septembre avec un Japonais à bord et 3 Américains. Et nous aurons en mars prochain 2 Américains, à nouveau un Japonais et un Européen, donc Thomas Pesquet, un Français, mm-hmm. qui lui-même passera la main dans un an à l'automne 2021 à un Allemand et puis des Américains et peut-être un Russe. Donc on est au tout début d'une nouvelle ère de services de transport et d'échange d'équipage de l'ISS sur des bases commerciales privées.
Oui, et justement, Thomas Pesquet, vous le disiez, qui va donc s'envoler en mars prochain. Il va suivre, forcément, on l'imagine, ce retour de la capsule SpaceX. Pour lui, qui a été formé au lanceur russe pour sa première mission spatiale, ça va être un gros changement, ce passage sur SpaceX.
Ah, le changement de vaisseau spatial est toujours un gros changement. Certains astronautes américains ont volé sur 3 générations différentes. Imaginez, John Young a volé sur Gemini, sur Apollo, sur la navette. À chaque fois, c'est totalement différent. Certains astronautes français ont déjà volé et sur le Soyouz et sur la navette. Il faut tout réapprendre. Mmh. Donc effectivement, Thomas va peut-être... Alors, il va plus s'entraîner sur le Soyouz puisque son vaisseau de transport et sa chaloupe de sauvetage disponible à tout moment, qui est le même que le vaisseau de transport, qui reste attaché à la station. C'est une nouvelle capsule, donc effectivement, c'est un nouvel entraînement pour lui.
Oui, on a vu un environnement très futuriste hein, dans cette capsule lors du décollage. C'est à ça qu'il doit s'habituer aussi.
Ah, c'est une capsule, effectivement, extrêmement moderne, dans laquelle on fait beaucoup plus confiance aux ordinateurs qu'auparavant, puisqu'il n'y a quasiment pas d'interrupteurs, il y a quelques écrans tactiles, tout est automatisé. On n'a même plus besoin de pilotes de chasse, commandants de bord, comme dans le passé pour la navette ou les vaisseaux Soyouz ou russes, puisque le commandant de bord sera un pilote d'hélicoptère, avec qui d'ailleurs Thomas a déjà volé. Son copilote, c'est une femme scientifique océanographe. Thomas et son collègue japonais seront des spécialistes de mission, comme on dit, des ingénieurs de bord qui pourront assister si nécessaire. Mais a priori, c'est une capsule très automatisée avec très peu de possibilités d'intervention pendant la montée, y compris en orbite. Mais s'il faut prendre en manuel, ne serait-ce que pour l'accostage final à la station, c'est possible.
Cette nouvelle aventure spatiale de Thomas Pesquet, évidemment, on la suivra. Actualité spatiale très riche hein, cette semaine, Jean-François Clairvoy. On peut aussi évoquer ce lancement par la NASA hier d'un petit robot Perseverance chargé de découvrir les traces de vie sur Mars. Ce rover, finalement, il incarne à lui seul aussi l'importance de la coopération en matière spatiale, de la coopération internationale, puisqu'il embarque de nombreuses technologies européennes.
Oui, bien sûr, vous savez, cette caméra qui ressemble à des yeux d'un robot au sommet du mât du rover, ce rover, donc c'est la taille et le poids d'une petite voiture. Mmh. C'est plus d'une tonne, c'est 4 mètres sur 3 mètres environ, donc c'est assez gros. Et effectivement, la première chose qu'on voit, c'est ce qui ressemble à un robot qui nous rappelle un robot humanoïde avec des yeux au sommet d'un mât, et ça, c'est français. Donc cette caméra est française. Et c'est une des expériences les plus critiques de ce rover. Comme vous le disiez, à chaque fois qu'une mission spatiale est très complexe, on recherche toujours la coopération internationale où chacun amène son savoir-faire, son expertise, là où elle est la meilleure. Mmh. Et sur ce type de caméra chimique, les Français sont les meilleurs.
Jean-François Clairvoy, la Chine, la semaine dernière, a envoyé un rover sur Mars. Est-ce qu'on peut parler de nouvelles batailles de l'espace autour de la planète rouge ?
Alors, une bataille, c'est peut-être un terme exagéré. Il ne s'agit pas d'une compétition comme à l'époque de la guerre froide et de la course à la Lune. Il s'agit à chaque grande puissance spatiale nouvelle de démontrer son savoir-faire et sa puissance industrielle, sa puissance scientifique. Donc, les Chinois vraiment servent la communauté scientifique puisque lors de leur mission précédente, par exemple sur la face cachée de la Lune, ils ont coopéré avec la NASA, ils ont coopéré avec les Européens, on se rendait service mutuellement. Et comme il y a aujourd'hui autour de Mars des satellites en orbite martienne, américains, européens, qui servent de relais parfois à des missions qui sont en surface d'autres puissances spatiales. Donc, on est dans la coopération internationale, mais c'est vrai que dans le cas de la Chine, elle veut d'abord prouver qu'elle sait tout faire toute seule, et jusqu'à présent, elle a tout réussi.
La coopération à tous les niveaux. Donc, merci Jean-François Clairvoy, ancien astronaute et fondateur d'Air 0G pour cette analyse et ses explications ce soir. Bonne soirée à vous.
Merci.